Le 25 décembre 1920, s'ouvre à Tours le 18e congrès du Parti Socialiste Français, la SFIO. La question de l'adhésion à la 3e internationale communiste fondée par Lénine après la révolution bolchevique divise les militants. Au bout de 4 jours de débats passionnés, une large majorité se prononce finalement pour l'adhésion. C'est la scission du mouvement ouvrier, la tendance majoritaire abandonne la SFIO pour créer ce qui deviendra le Parti communiste français. La discorde avait commencé avec le ralliement des socialistes à l'Union sacrée pendant la Grande Guerre. La révolution russe et la prise de pouvoir des bolcheviks à Moscou approfondissent les divisions, la défaite électorale de la gauche en 1919 et l'échec syndical des grandes grèves de 1920 conduisent à la rupture. Une majorité de militants se tournent vers le bolchevisme et placent leur espoir dans la révolution mondiale. Mais une fraction des socialistes incarnée par Léon Blum rejette catégoriquement l'alignement inconditionnel sur Moscou et les 21 conditions posées par Lénine au ralliement. La scission est inévitable, les 3/4 des militants quittent la SFIO, emportant dans leur bagage le journal L'Humanité qui deviendra l'organe officiel des communistes. L'année suivante, la fracture du parti provoque aussi une scission du syndicat de la CGT. Mais avec l'échec de la Révolution mondiale, la SFIO reste l'organisation dominante du mouvement ouvrier français dans les années 30. Le Parti communiste ne lui ravit cette place qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, auréolé par son rôle dans la résistance. Avec plus d'un quart des suffrages, il devient le premier parti de France et pendant 3 décennies, il est un acteur majoritaire de la gauche.
La paix, c'est l'aspiration profonde au lendemain de l'horreur de la Première Guerre mondiale. Elle est rien moins que la sauvegarde de l'humanité, comme l'expose cette affiche communiste de Jules Grandjouan, datée de 1921. Dans une France en deuil, peuplée d'innombrables gueules cassées, la guerre a laissé une empreinte extrêmement profonde. Le 18e congrès du Parti Socialiste SFIO, ce fameux congrès de Tours, qui fait le choix du communisme en décembre 1920, est dominé par ce spectre de la guerre. Qu'on pense à Paul Vaillant-Couturier, partisan de l'adhésion à l'Internationale communiste, ancien combattant et créateur avec Raymond Lefebvre et le romancier Henri Barbusse de l'ARAC, l'Association républicaine des anciens combattants. La guerre est au cœur de leur engagement politique. Qu'on pense, côté socialiste, à Léon Blum, acteur notable de l'Union sacrée pendant la guerre, et à son discours du congrès de Tours, très savamment construit, mais qui déclenche une explosion de colère lorsqu'il défend la possibilité d'une nouvelle guerre pour la France. Les communistes crient alors « À bas la guerre !» et l'Internationale retentit. Pour nombre des congressistes, adhérer à l'Internationale communiste, c'est refuser toute nouvelle guerre nationaliste et chauvine, c'est refuser avec les bolcheviks toute nouvelle union sacrée. C'est ce qu'exprime bien, je crois, cette affiche de Jules Grandjouan, très grand nom de l'affiche politique venue, comme d'autres communistes d'ailleurs, du syndicalisme révolutionnaire d'avant-guerre. On mesure bien la force du rejet du nationalisme, voire du patriotisme lui-même, après qu'on a appelé tant d'hommes à s'entretuer au nom de la patrie. On peut peut-être entendre aussi l'écho d'un célèbre discours de Jaurès de 1895, selon lequel le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée dormante porte l'orage. Pour Grandjouan et les communistes de 1920, si durement marqués par la Grande Guerre, l'humanité est déchirée par le chauvinisme. Elle doit s'unir dans la paix que le communisme vise et promeut. Telle est, pour eux, la leçon de la guerre.
Les conquêtes sociales arrachées en 1936 durant le Front populaire sont d'une portée considérable. Les congés payés, la semaine de 40 heures, les conventions collectives ou encore l'extension des droits syndicaux. Ces mesures n'étaient pourtant pas toutes inscrites dans le programme du Front populaire, un programme relativement modéré qui résulte d'un compromis à gauche entre les communistes, les socialistes et les radicaux. C'est que d'autres enjeux dominent la période, dans un contexte marqué par la progression partout en Europe du fascisme et de la menace d'une nouvelle guerre. Dans cet environnement incertain où toutes les options politiques semblent envisageables, le Front populaire articule son projet autour de 3 mots d'ordre simples pour le pain, la paix, la liberté, qui ornent ici cette affiche électorale du Parti communiste à la veille des élections législatives du printemps 1936. Cette affiche texte reflète bien la nouvelle stratégie amorcée 2 ans plus tôt par le Parti communiste qui, face au danger fasciste, abandonne son ancienne ligne de classe contre classe, c'est-à-dire de confrontation avec toutes les autres forces politiques non communistes, au profit de l'unité des forces démocratiques et antifascistes à travers la construction d'un front populaire. C'est le sens de cette affiche qui, face aux réactionnaires de tout poil, en appelle à l'union de la France qui pense et de celle qui travaille, c'est-à-dire au rassemblement non seulement des ouvriers, des paysans, des anciens combattants, mais aussi des intellectuels, des fonctionnaires et des commerçants. Cette stratégie s'avère doublement gagnante pour la coalition du Front populaire qui remporte les élections et pour le Parti communiste qui, en passant de 10 à 72 députés, devient une force majeure de la vie politique française. Dans les semaines qui suivent, il apporte son soutien sans y participer au gouvernement de Léon Blum. Renforcé par l'afflux de dizaines de milliers de nouveaux adhérents, il exerce le ministère des masses, pour reprendre l'expression de Paul Vaillant-Couturier. Les militants communistes, par ailleurs solidement implantés dans la CGT réunifiée, sont alors directement impliqués dans l'animation de la grande vague de grève et d'occupation d'usines qui déferle sur le pays et qui débouche sur les conquêtes ouvrières de 1936. Dans les décennies suivantes, le combat pour de nouveaux droits économiques et sociaux demeurera l'un des axes majeurs de l'action du PCF. Parti national qui assume son ancrage dans la nation, telle est l'image renvoyée par le Parti communiste français en 1945. Si les adversaires politiques du PCF, à différents moments de son histoire, ont pu le présenter comme étant un parti de l'étranger, si le Parti communiste lui-même est d'abord l'héritier d'une longue tradition internationaliste dans le mouvement ouvrier, il n'en demeure pas moins que son projet, ses discours, ses pratiques, s'inscrivent dans une culture politique nationale, elle-même imprégnée d'une culture républicaine, héritée de 1789 et de la Révolution française. La rencontre du PCF avec la nation remonte au Front populaire, lorsque le drapeau tricolore et la Marseillaise sont associés au drapeau rouge et à l'international. Peu de temps après, durant la guerre, la dimension patriotique est au cœur de la résistance communiste contre l'occupant nazi. Si bien qu'à la Libération, auréolée de son image de parti des fusillés et s'apprêtant à devenir le premier parti de France, d'un point de vue électoral autant que militant, le PCF se présente comme le parti de la Renaissance française, comme dans cette affiche de 1945. Accédant aux responsabilités gouvernementales, son objectif est de reforger une France forte avec l'énergie de son peuple. Drapé de tricolore, l'enclume et le marteau tenu par la main ferme et virile du forgeron rappellent ici le rôle central de la classe ouvrière qui a non seulement participé à la libération de la France, mais à qui revient aussi la tâche patriotique de reconstruire le pays ravagé par la guerre et l'occupation, et alors que les pénuries et le rationnement restent en 1945 le lot quotidien de la population. Ainsi, contre l'inertie, le sabotage et la trahison, l'heure est à la bataille de la production, comme le proclamera Maurice Thorez dans un célèbre discours. La solidarité internationale constitue assurément l'une des marques de fabrique du PCF qui le distingue sans commune mesure des autres grandes formations politiques. La fondation même du Parti communiste en 1920, qui se traduit par l'adhésion à l'Internationale communiste, s'inscrit dans cette volonté du mouvement ouvrier de dépasser les frontières nationales pour porter le combat de classe à l'échelle internationale. C'est le message porté par la célèbre formule de Marx et Engels, « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous », qui orne la tribune du Congrès de Tours. Cet internationalisme s'est incarné dans des pratiques concrètes de solidarité auprès des peuples en lutte. Des grandes campagnes des années 20 et 30 contre l'exécution de Sacco et Vanzetti ou pour aider les républicains espagnols face à Franco, jusqu'aux mobilisations les plus récentes en faveur des peuples kurdes ou palestiniens, la solidarité internationale imprègne toute l'histoire du PCF. Mais s'il est une campagne qui, dans les années 80, a marqué toute une génération de jeunes militants communistes, c'est bien celle pour la libération de Nelson Mandela et pour la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. C'est l'objet de cette affiche de Grapus, ce collectif de graphistes qui participa au renouvellement de la communication graphique du Parti communiste. À cette époque en France, Rares furent les organisations qui, comme le PCF, les Jeunesses communistes ou le Journal L'Humanité, ont interpellé l'opinion publique sur le sort de Nelson Mandela et de ses camarades de l'ANC et du Parti communiste sud-africain, à qui le combat contre la ségrégation raciale leur avait valu l'étiquette de terroristes. Si les communistes furent souvent bien seuls à appeler à des sanctions contre le régime sud-africain ou à dénoncer en 1988 l'assassinat à Paris de la représentante de l'ANC, Dulcy September, ce combat s'avéra pourtant payant avec la libération en 1990 de Mandela après 27 années d'emprisonnement.